Salut la gang, bienvenue à ce 27e épisode de Femmes de fer. Connaissez-vous le cassis? Avez-vous fait le tour de l'île d'Orléans? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous connaissez probablement l'entreprise Cassis Mona et Fille. Je suis totalement fan de leurs produits, de leur histoire et avec un emplacement aussi incroyable qu'époustouflant, l'entreprise familiale est un incontournable dans les produits du terroir au Québec et j'en profite pour en discuter dès maintenant avec Catherine Mona. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Monmini, rédactrice, productrice et mompreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Bonjour Catherine.
Oui, bonjour, bonjour.
Merci tellement d'avoir pris, ça va super bien. Écoute, merci d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Avant de commencer l'entrevue, Catherine, je dois avouer quelque chose. Mon mari est, ma famille est, on est des fans, en fait, de Mona et Fille. En fait, on n'est pas du tout de la région de Québec. On vit dans le coin de Montréal et tout, mais on va souvent à Québec pour plusieurs raisons. Et l'île d'Orléans est toujours comme un incontournable pour nous. On y va à chaque année. Et Mona et Fille fait partie de ma famille, je pense, depuis plusieurs années. Les produits sont toujours sur notre table, dans la cuisine de ma mère. On est des fans, finalement, je veux le dire comme ça. Puis, je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui parce que Mona et Fille, pour moi, c'est vraiment, premièrement, un emblème de l'île d'Orléans, dans le sens que c'est un incontournable quand on va là, mais aussi parce que l'histoire derrière la compagnie me fascine. Sans plus tarder, Catherine, avant de commencer l'entrevue.
Merci de partager, oui. Sophie, ton enthousiasme et ton expérience avec l'entreprise. Là, ça fait toujours très plaisir d'entendre ça.
Oui. Est-ce que vous l'entendez des fois, ça, que ça fait partie de la vie des gens depuis plusieurs années?
Oui, on l'entend parce que, en tout cas, on y reviendra peut-être, mais l'entreprise, ça fait quand même 28 ans là, qu'elle existe sous sa forme Cassis actuelle. Puis, elle a grandi. Les gens ont connu le projet de mon père au départ très petit. Et là, ça fleurit. Les filles, donc moi et ma sœur qui nous sommes rajoutées au projet il y a maintenant 18 ans, ça fait déjà beaucoup. Puis, on l'entend effectivement. L'île d'Orléans, il y a comme un côté pèlerinage aussi pour beaucoup de Québécois. Oui. Ça donne du sens à, pendant l'été, faire le tour. Il y a une espèce de connexion avec nos racines, puis on voit les paysages ruraux, on voit le fleuve. C'est vraiment le vrai Québec là, de nos racines des premiers colons, en fait.
Oui.
C'est ça, nous disent qu'ils viennent. Puis souvent, on entend ce qui est assez amusant. Là, je vieillis. Là. Mais les gens vont nous dire qu'ils sont fiers de nous. Les gens de la génération de mes parents nous ont vu arriver plus jeunes. Puis on est tellement fiers de vous, les filles. Puis on sent qu'il y a une appartenance là, à ce qui se passe chez nous.
Oui. Bon, ben justement, plongeons tout de suite dans le bain. C'est quoi l'histoire de cette marque-là?
Au départ, il y a mon père, Bernard Mona, un créateur, un allumé, avec plein d'envie de faire des choses, qui a eu plusieurs commerces sur sa terre. En fait, il faisait des entreprises au fil des saisons, beaucoup l'été, donc l'hiver, c'était plus calme, c'était la poterie, la peinture. Mais l'été, il y avait, dès le départ, au début des années 70, il a fait de la vente, il faisait de la céramique qu'il vendait dans la grange. Ensuite, il y a eu des framboises, il y a eu un projet d'asperge à un moment, à une période où les Québécois ne connaissaient pas l'asperge. On a trouvé des dépliants là, qui expliquaient aux gens, aux consommateurs, qu'est-ce que c'était une asperge, à quoi ça ressemblait. Donc, c'était aussi assez inusité. Et il y a eu donc son envie de planter des cassis. Lui, il est originaire de la France, du sud de la France, et il a immigré avec ses parents étant adolescent, mais il avait gardé ce petit fruit-là en tête, même si on le voyait pas beaucoup au Québec, on le consommait pas beaucoup, mais il y avait ce désir-là de valider si ça pouvait pousser ici, parce que le cassis a besoin d'un climat froid. Dans son processus, il a vu que oui, ça pousse cassets, qui avait même une histoire liée au cassis avec les Québécois, donc on appelait la Gadelle Noire à l'origine, et il a commencé à faire des alcools, tant les balbutiements là, des alcools artisanaux, donc au niveau légal, c'était vraiment, il a été dans les premiers à avoir un permis d'alcool artisanal, donc pouvant transformer les fruits de son agriculture en alcool et de le vendre directement sur la ferme. Donc, lui, il travaillait pratiquement en solo. Il avait parfois une ou un vendeur l'été, quelqu'un qui venait l'aider quand c'était le temps de faire les vendanges, de récolter du cassis et de le transformer. Mais c'était assez à petite échelle. Donc,
est-ce qu'il en avait planté beaucoup? Dans le sens, est-ce qu'il connaissait bien ce fruit-là? Comment?
Non, parce que...
toutes ses connaissances, oui.
Mais en fait, lui, il n'est pas agriculteur, il n'avait pas étudié non plus, en agriculture, en entrepreneuriat. C'est un autodidacte. Puis ça a été assez difficile à trouver, ses premiers plants. Il en a trouvé, effectivement, sur la rive sud de Québec. Puis là, c'est là que lui, avec son accent du sud de la France, du cassis, je cherche du cassis, on ne sait pas de quoi vous parlez, Monsieur Mona. Juste attendre quelqu'un allume en disant, mais le cassis, c'est le nom, entre autres, en France, mais ici, il y avait une tradition de gadelle noire et c'est le même fruit. Et donc, il a trouvé ses plants, donc quelques plants, assez pour faire des tests qui ont fait le bonheur de ses amis pour essayer les crèmes et le vin de cassis. Puis, quand il est allé voir la régie des alcools, effectivement, qui mettait les permis, là, mon père arrive, un grand Français, tout maigre, son béret sur la tête, qui dit, je voudrais un permis d'alcool, je vais faire des alcools de cassis. Alors là, le monsieur disait, j'avais jamais entendu parler du cassis de un. Et, il dit, c'est comme un... c'est une idée qui sort de où, ça. Et il a dit à mon père, donc, ça vous prend minimum 2 hectares de culture pour venir demander un permis. Et l'homme en question m'a dit, il était certain qu'il ne reverrait jamais mon père pour redemander un permis après ça, parce que quand même, tu sais, 2 hectares, c'est beaucoup. Ça prend beaucoup de plants, de bouturage, etc. Et mon père, il a mis ses 2 hectares, il est retourné. Je veux mon permis. Et effectivement, ça a porté fruit. comme je le disais, il y avait une tradition familiale, en fait, que les gens au Québec avaient. Ils avaient chacun dans les fermes familiales, depuis le début de la colonie, il y avait quelques plants de cassis près des maisons pour faire des confitures, des sirops, mais également des alcools. Mais ça s'était vraiment perdu comme savoir-faire et comme culture. Donc, dès qu'on parle d'une culture à grande échelle, c'est différent aussi. Alors, et est-ce qu'on peut améliorer la productivité? Quels plants sont les plus productifs? Les périodes optimales pour la taille? Tout ça, au Québec, on n'avait aucune littérature là-dessus. Donc, c'est vraiment mon père, encore une fois, en essai-erreur pour les variétés et aussi la façon là, de les cultiver. Puis d'ailleurs, beaucoup d'agronomes ou l'Université Laval sont venus faire des projets de recherche pour un petit peu bonifier leur connaissance sur le cassis, et ça a été fait chez nous.
Donc, c'est vraiment un pionnier et un passionné de ce fruit-là, dans le fond, qui est un peu hors de l'ordinaire ici au Québec, quand on part de ça, là, de dire, on fait de la culture artisanale, ça pousse, il y a quelques produits qui se font à partir de là. Comment on part de ça et on se dit, on est en train de construire une marque, une compagnie. Est-ce que ton père avait cette vision-là ou pour lui, c'était vraiment juste qu'il développait ça sur ses terres pour sa passion, simplement?
Je pense que c'était pas nécessairement très, très clair parce que, comme je te le disais, il y avait déjà eu d'autres projets, puis lui, c'était vraiment dans... ses projets d'affaires étaient vraiment modelés sur sa façon de vivre, en fait, sur son envie de faire les choses. Donc, il partait des projets, puis ça allait bien toujours, je dirais, par son originalité. Puis aussi, il y a un grand sens du goût et de la qualité. Mais souvent, il arrêtait parce qu'il s'ennuyait. Il partait un autre projet. Donc, il passait d'un projet à l'autre au fil des décennies, des années. Donc, le cassis, ça aurait pu, je pense, rester petit et peut-être arrêter parce que il n'aurait pas nécessairement vendu et la terre, là, ils habitent encore sur la terre familiale. Mais le fait que, effectivement, moi et Anne soyons été intéressés à joindre l'entreprise, ça, je pense que ça c'est ça qui a. Lui avait fait la base, le fondement essentiel et fondamental de produits de qualité, d'avoir cette idée-là de cultiver le cassis. L'emplacement qu'il avait choisi au début des années 60, juste à l'entrée de l'île d'Orléans, qui est vraiment un site exceptionnel, dans la proximité et la beauté de l'endroit. Mais le fait, la façon de travailler, le regard de moi et ma sœur, on a étoffé en fait ce projet-là. Et la marque Cassis, telle qu'on la connaît maintenant depuis environ 16 ans, je dirais, là, plus de 15 ans, ça, c'est vraiment lorsque on s'est arrêté à repositionner l'image de marque, où on voulait aller, qu'est-ce qu'on voulait mettre de l'avant et comment on allait faire grandir et fleurir ce projet-là. Donc,
quand vous étiez petite, là, est-ce que vous regardiez votre père et pour vous, c'était juste, vous vous amusiez dans les champs, vous goûtiez aux fruits, aux confitures et c'était le fun ou il y avait vraiment un intérêt de s'impliquer dans la culture ou de l'autre côté, en plus, vous étiez rebelle et faire « Oh my God, moi, je toucherai jamais à ça, je m'en vais à l'opposé et ça m'intéresse pas du tout. »
Je dirais c'est un petit peu des deux, en fait, parce qu'on a été élevés là-dedans. C'est ça, au fil des saisons, les saisons étaient très importantes. Donc, l'hiver, c'est le temps parfois des voyages pour aller vers des températures un peu plus clémentes. Ensuite, le printemps arrivait, ils se mettaient à travailler dehors. Et moi, enfant, j'étais très, très fan de mon père. Je le suivais et j'adorais le voir faire les choses, me montrer comment on fabriquait les affaires. Il aime beaucoup aussi, encore maintenant, là, comprendre comment ça se fait puis pouvoir se l'approprier. Puis en même temps, moi, j'étais plutôt du côté artistique. Donc, j'ai fait des études en art plastique, cégep, université, plutôt photo. J'ai fait un bac à Concordia. C'était pas clair qu'on allait travailler avec lui ou travailler sur sa terre. Par contre, ça fait partie vraiment de notre ADN. Moi, c'était très clair, très jeune, que j'allais avoir mon entreprise. Je ne savais pas c'était quel projet qui allait éclore, mais en même temps, les arts visuels, on fait des choses. Ensuite, il y a toute cette question-là quand même, si on veut en vivre, de mise en marché, de présentation. Ouais. Donc, ça faisait partie de mes intérêts et j'avais ce désir très fort aussi de revenir sur l'île pour vivre là, pour avoir mes enfants, malgré le fait que j'ai habité ailleurs et que j'adore voyager, mais mon ancrage a toujours été très, très fort sur l'île.
Donc, tu t'es pas poussée à Montréal pour dire, moi, maintenant, non, je m'en vais pas du tout sur l'île d'Orléans. Je vis à Montréal une vie de citadin.
C'était pas précis comme ça, en tout cas. Quand on était plus jeune, c'est drôle parce que on allait l'été chez lui, chez notre père, parce que, bon, nos parents sont divorcés, donc on a scié entre la maison de notre mère, qui était entrepreneur aussi. Elle a eu des serres de roses très longtemps. J'ai travaillé avec elle aussi pendant mes études. Mais l'été, quand on arrivait chez mon père, il y avait son kiosque sur le bord de la route. Et elle dit, bon, alors les filles, faut qu'une des deux vende cet après-midi. Et, tu sais, c'était pas tout à fait douloureux, mais on n'avait pas nécessairement le choix. On était assez jeunes. T'sais, on parle, les gens disent « Cassis », puis même il y en a qui trouvent maintenant, c'est certain, là, ça, c'est plus gros. On a adapté le site aussi pour la plus grande affluence l'été, mais on essaie toujours, c'est très important pour nous de garder l'âme. Là, c'est pas une usine à... T'sais, c'est vraiment, on veut que ce soit un cadre qui est toujours une sensibilité pour les gens qui viennent nous visiter. Oui. Mais en même temps, ça a vraiment commencé là, très, très petit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entrepreneurs qui n'auraient pas vécu ça à cette lenteur-là, je dirais, d'avoir vraiment, tu sais, c'était l'idée, c'est ça, de pas avoir pas trop d'aide, d'avoir toujours cette liberté-là, donc, de faire les mouvements. Donc, moi et ma sœur, on a quand même suivi ça, de consolider, mais sans trop alourdir la machine pour devenir trop stressante. Donc, c'était doucement, là.
Donc, quand vous avez fini vos études, est-ce que c'est toi ou c'est ta sœur qui a décidé de s'impliquer en premier?
En premier, c'est moi, mais il faut dire que je suis l'aînée, j'ai 3 ans de plus que Anne. C'était clair que je voulais avoir un projet. J'étais sur la fin de mon bac et mon père venait de faire un agrandissement dans sa cave à vin, en fait, là où il fabriquait la cuverie. Et ça donnait une surface, en fait, super intéressante sur la vue sur les champs de cassis et sur le pont. Donc, c'est encore là que la terrasse est située. Et je m'en souviens très bien, on allait à une fête de famille, je pense. C'était l'hiver, on était en voiture. Puis là, il m'a dit, Catherine, là, il y a un espace vide. Puis il dit, je pense qu'il y aurait de la place pour un projet, tu sais, pendant l'été. Donc, j'ajouterais pour bonifier le domaine. Est-ce que ça te tenterait? Puis il dit, tu sais, je pourrais t'aider, tu sais, à t'équiper un petit peu au début. Alors là, tu sais, ça n'a pas pris... ça n'a pas été long. J'ai dit, oh! Ça va être... C'est comme le moment de plongée. Puis, encore une fois, c'était à très petite échelle. Là. On avait la terrasse que j'ai meublée. J'avais mon copain de l'époque. Là, c'était début vingtaine, là, vraiment. On cuisinait sur des poêles de maison. Les frigos, c'était des frigos de maison. On habitait dans le logement qui est devenu les locaux, tu sais, les bureaux, puis la cuisine du resto. Fait qu'on avait une espèce de... C'était pour l'été. Et je passais par une fenêtre, je faisais le service, moi, puis on avait tout, j'avais créé le menu et tout de suite, dès le départ, c'était vraiment avec des touches de cassis. Donc, c'est vraiment le principe, l'ADN du projet de la Monaguette, du restaurant, c'était de faire découvrir et goûter les vins de cassis, mais les condiments aussi, puis le cassis en général aux gens qui venaient nous voir. Mais c'est ça, on n'a pas percé de porte la première année en se disant, ben si ça débloque pas ou si ça marche pas, au moins, on n'aura pas fait une porte pour rien.
Donc, à partir de là, la Monaguette est clos, finalement.
Oui, oui. Donc, c'était l'an 1, en fait. Puis, à l'an 2, l'été 2, ma sœur est venue me rejoindre.
Est-ce que toi, ça t'animait plus de t'impliquer là-dedans plutôt que de cultiver le fruit?
Bien, en fait, la place pour travailler avec notre père était pas nécessairement là parce que à l'époque, on a un frère aîné. Les gens ne savent pas toujours, mais nous sommes 3 enfants. On a un frère plus âgé que moi qui a travaillé quelques années avec mon père. Donc, ces années-là où je suis revenue, moi, ouvrir le restaurant, il était encore là avec mon père. Puis finalement, après quelques années, pour différentes raisons, il a décidé d'arrêter et de pas prendre la relève de mon père. Quand mon frère, donc, a décidé de quitter, mon père a offert à moi et Anne, donc, de prendre la relève. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu, comme se repositionner en disant, ça implique, c'est ça, travailler dans les champs, apprendre les recettes. Donc, c'était comme un défi fallait réagir plus vite, en fait, parce que c'était déjà en place versus le restaurant où c'était vraiment mes idées et à notre rythme, là, tranquillement.
Tout allait reposer sur votre dos à partir de ce moment-là, parce que ça devient votre histoire. Votre père est là, mais ça va devenir votre histoire à vous.
C'est ça. Ben, fallait se l'approprier aussi, parce que mon père, c'est quand même une personnalité forte. Moi aussi, ma sœur aussi. ça fait un peu famille italienne. Là. Ça finit en s'embrassant, puis tout le monde va bien. On parle d'autre chose. Le restaurant allait bien, mais les restaurants, on le sait, les marges de profit ou le prix de l'assiette versus surtout quand on se dit qu'on essaie d'acheter local, puis on essaie d'aller cueillir parfois même les petits fruits pour décorer les assiettes. Tu sais, ça en prend beaucoup pour... Puis en plus, c'était saisonnier et le restaurant, pour nous, c'était clair qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas nécessairement de futur pour un restaurant à l'année. Tu sais, on était... Donc, mais on avait commencé, par contre, déjà à faire des conserves, à faire des mises en pot de confiture, de moutarde, de confit d'oignon parce que c'était sur le menu, sur les tables. Et les clients, dès l'an 1... demandait pour en acheter. Et ça, ça n'avait pas été prévu, en fait. Là, ça a été un peu improvisé aussi en disant « Ah, OK, d'accord. » Il y a des clients qui nous disaient « Avez-vous un pot de verre, un pot de plastique, un Ziploc, on vous en achète? » Fait que là, c'était « Ah, OK, mais on va commencer à faire des pots, à s'installer un petit peu mieux. » Donc, et lorsqu'il y a eu donc la proposition de travailler avec les alcools, c'est certain que c'était très petit. C'était vraiment un autre modèle d'entreprises ou en tout cas les chiffres d'affaires, ça c'était vraiment petit, mais en même temps, le potentiel était là, l'engouement, il y avait déjà tu sais, les journalistes culinaires, les Daniel Pinard de ce monde, et Jean Soulard, tu sais, ça attirait beaucoup l'attention déjà, donc il y avait une effervescence reliée à l'entreprise de mon père, et c'était là qu'on s'est dit, on va pouvoir vivre, tu sais, faire vraiment une vie et développer vraiment sur toutes ces facettes le cassis là.
J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à consulter le site web de Femmes de fer où je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel vous avez 5 astuces pour savoir comment bâtir votre liste de courriels. Alors, si vous voulez pousser le sujet encore plus loin pour vous aider à bâtir votre entreprise, allez sur sophiem.ca/femmes-de-fer-podcast. Comment ça fonctionne dans une famille? Parce que, bon, vous êtes une entreprise familiale et c'est le rêve de plusieurs parents de se dire « Mes enfants vont prendre le relais de l'entreprise sur laquelle je travaille depuis si longtemps. » Mais en même temps, c'est quelque chose qui, pour moi, semble épeurant peut-être parce que, autant du bord des enfants que des parents, parce qu'en tant qu'enfant, tu veux pas détruire le travail de tes parents qui ont monté depuis tant d'années. Et en tant que parent, tu te dis, mais je veux laisser de la place à mes enfants pour qu'ils explorent. Mais en même temps, je veux qu'ils respectent ce que moi, j'ai monté. Tu disais tantôt là, que ton père a quand même un bon caractère, que vous autres aussi. Donc, comment vous êtes capable d'innover, d'évoluer, mais tout en gardant le fait de dire... Ça vient de papa, là. Ça, faut respecter ça. Faut garder cette touche-là. Faut pas se perdre. Faut pas trop s'en aller loin de la marque.
Oui. Mais en fait, la marque, vraiment, le nom qui a changé, Cassis Monaifi, c'est lorsque moi et Anne avons pris en main l'entreprise. Donc, c'est au départ, là, quand même, assez à nos débuts, là, de l'implication du côté des alcools. Donc, au niveau de la marque, c'est comme ça, on a vraiment changé, puis c'était le temps de le faire. T'sais, on s'était fait dire, même à l'époque, « Ah, c'est toujours dangereux, on a changé même le nom de l'entreprise, puis l'image. » Mais c'était le temps de le faire parce qu'on savait qu'on avait de l'énergie là, pour les années qui s'en venaient, puis on voulait bâtir quelque chose. Donc, ça a été un bon timing. Mais sinon, le fait que c'était assez petit, il y a des lignes directrices, donc de jamais négocier sur la qualité du produit, de toujours viser le meilleur pour les gens qui vont goûter nos produits ou qui vont venir chez nous sans concession. Vraiment, on veut le faire comme si c'était notre famille, toujours, là, notre famille, notre belle famille qui venait nous visiter. Donc, on veut que les gens reviennent, soient ravis. Pour ce qui est des recettes, bien, ça a été des années d'apprentissage. Pas toujours facile. Là. C'est moi qui ai eu la charge de vraiment de me mettre les mains, bien, c'est ça, dans le champ puis dans la cuverie, puis de suivre pendant quelques années mon père là-dedans. C'était quand même intense. On l'a fait quand même graduellement. Moi, j'ai eu 2 enfants aussi pendant ces années-là. Donc, et on a commencé de façon plus tranquille en étant très saisonnière. Donc, vraiment, l'été, là, l'hiver, on pouvait reprendre notre souffle puis un peu se repositionner pour l'année qui s'en venait. Là, depuis plusieurs années, là, on travaille vraiment à l'année pour différentes raisons. On a une équipe avec nous extraordinaire qui travaille. C'est ça, là, en hiver, on fait la production puis on fait des choses qu'on n'a pas le temps de faire l'été. Ça reste que même entre actionnaires qui n'ont pas de lien de sang, il y a toujours des enjeux. Là, nous, moi et ma sœur, ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. C'est certain qu'on est allé chercher de l'aide à quelques reprises. Puis ça, je pense que c'est important de le dire parce que c'est ça, il n'y a pas de magie là-dedans. Puis on est tous humains, puis on change, puis on a des périodes dans notre vie. Donc, on est allé chercher des mentors, on s'est fait coacher, on a pris des cours de communication consciente. On est allé vraiment s'équiper parce que effectivement il y avait des périodes plus difficiles que d'autres où il fallait comme refaire nos vœux d'envie de travailler ensemble puis de tu sais ça de garder le cap là, de se repositionner pour choisir aussi parce que c'est ça, on a beaucoup d'idées, plusieurs directions qui nous intéressent, mais après il faut cibler pour mieux avancer. Donc
comment vous êtes capable de toujours être capable de vous démarquer au Québec?
Ben le fait c'est ça, on a pris une place puis on s'est positionné avec une image de marque, c'est ça qui était originale, produit aussi dans la façon nous tout. Ben là, tu sais, avec l'environnement, déjà, là, il y a 18 ans, on n'était pas où on est en ce moment, mais quand on parle de circuit court, d'achat local, les gens avaient une sensibilité pour le plaisir. Là, maintenant, il y a un côté même un petit peu plus urgent de se repositionner. Donc, ça, on en bénéficie, entre guillemets, mais le fait d'avoir travaillé notre site de la façon qu'on l'a fait, donc en mettant en valeur un restaurant qui je pense, tu sais, bien cerné pour la clientèle l'été, pour le type d'expérience. Puis là, on a le bar laitier, mais avec, on a plus de sorbet. On a du sorbet, bien sûr, on a plein de crème glacée ou de sorbet avec du cassis, avec du vin de cassis, mais aussi à l'argousier. La clientèle qui était déjà friande, c'est comme développé, puis on le voit dans lorsqu'on fait, on participe à des colloques ou on rencontre d'autres gens de l'industrie agro-touristique, c'est vraiment là où ça s'en allait, où ça se confirme. Les gens veulent une expérience de se déplacer, puis d'être avec son amoureux, avec ses amis, avec ses enfants qui courent dans le champ, puis prendre un verre, puis avoir le soleil, t'sais, le vent qui passe. Il y a quelque chose qui est très profond, puis les gens peut-être réalisent plus à quel point c'est précieux maintenant. Oui. Donc, je pense que ce modèle-là, on l'amène plus loin. Et là, les nouveaux produits aussi, je pense, vont vraiment plaire, puis encore une fois, très authentique.
Mais je pense que tu expliques exactement pourquoi moi, avec mon mari, pourquoi mes parents retournent à chaque année à votre endroit. En fait, c'est que premièrement, votre restaurant est délicieux. À chaque fois qu'on va manger là, c'est vraiment excellent. Le site est magnifique. Pour ceux qui veulent voir l'île d'Orléans, c'est tellement pas loin de l'entrée. Et en plus, on a une vue incroyable. On est bien. Moi, j'arrive là et je me sens tellement bien. On n'a pas le goût de partir. Notre vacance est faite. On s'assoit sur la terrasse ou juste en bas sur les tables de pique-nique. On est comme, bon, ben notre vacance est faite. On est relax. Tout va bien. Est-ce que vous voulez agrandir? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, on a eu une limite à développer le site, là.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, encore là, on essaie de rester ciblé. Fait que c'est pour ça, même des gens où on va entendre ça, tu sais, il y a des entreprises qui cultivent, ben, plusieurs fruits, en tout cas, où, là, nous, on reste cassis, on reste la grande majorité des choses c'est nos recettes, on les fait chez nous. Si c'est pas le cas, c'est parfois des collaborations, puis là, il y a des photos des propriétaires, des artisans qui les font, c'est avec nous ou pour nous, selon leur expertise. Donc, ce qu'on a comme possibilité, c'est d'aller chercher des pieds carrés qui étaient moins bien utilisés. Je ne sais pas si, lors de tes visites, tu as eu l'occasion de rentrer dans la grange, dans le haut de la grange, par exemple. Mm-hmm. C'est un bâtiment magnifique qu'on a vraiment... On a pris le temps, on a mis l'argent pour la remettre en forme, en fait, puis aussi à l'utiliser à l'intérieur au niveau du rez-de-chaussée. Mais là, à l'étage, bien, pendant l'été, tu sais, c'est pas isolé, donc c'est un peu trop chaud pour des activités. Dès qu'il fait un peu frais, bien là, c'est trop froid. Oui. Donc, ça, ça va être à ce niveau-là qu'on va aller essayer de mieux utiliser des pieds carrés qui sont déjà sur le site, déjà accessibles en partie. C'est pour ça qu'on développe aussi des produits qui vont sortir du site, puis, puis éventuellement qui sortent du pays aussi. Mais ça va être, tu sais, ça, c'est, on est comme sur une corde raide quand même à garder l'équilibre entre, tu sais, c'est ça, une demande qui augmente, puis on a envie de ça, puis de bien le faire, mais en même temps, justement, qu'il n'y ait pas de compromis pour pas de... Tu sais, c'est certain qu'on veut pas... On sera pas une usine à touristes, là, pour... C'est ça, l'ADN, c'est vraiment l'expérience puis le plaisir relié à la visite.
Je veux parler de la crème de cassis parce qu'elle a gagné plusieurs prix. Quand je regardais un peu l'historique de ce produit-là, je me disais, mais écoutons, ça, à chaque année, elle gagne des prix. Cette crème, qu'est-ce qui fait qu'elle se démarque à ce point-là? Parce qu'elle est incroyable, mais...
parce qu'elle est incroyable. On parlait de qualité tout à l'heure. C'est vraiment... La recette que mon père a élaborée au départ, que moi, j'ai affinée aussi, parce que faut le dire quand même, les volumes ont augmenté, puis on a pu mieux cibler aussi les variétés pour avoir vraiment la meilleure qualité avec, il y a comme des degrés de parfum, des degrés de goût à aller chercher, puis on fait un assemblage assez précis de variété de cassis. Puis la même variété de cassis ne va pas goûter la même chose si on la cultive en France, en Colombie-Britannique ou en Alberta, dans le Maine ou sur l'île d'Orléans. Donc, quand on parle de terroir, il y a le terroir de l'île d'Orléans qui donne une qualité de fruits exceptionnelle. Et de la façon qu'on travaille, c'est encore artisanal. Là, j'ai des gens parce qu'on a parti d'une nouvelle production, donc de cassis séché, je le disais tout à l'heure, de distillation. Puis là, les consultants, ils nous voient filtrer notre crème de cassis dans des poches de coton. Puis là, tout le monde dit, ben voyons donc, c'est ça. C'est comme la méthode de la grand-mère, mais un petit peu haut. Mais en même temps, c'est comme ça que mon père l'a toujours fait, que moi, je l'ai toujours fait. Une qualité dans ce temps-là artisanal, il n'y a pas de pression mécanique non plus. Donc, c'est par gravité. On a vraiment juste le meilleur du fruit. Puis ça, on augmente nos... on a acheté une autre terre agricole il y a quelques années. Donc, on est en train de la planter. Ça prend 3 ans avant de faire ses premiers fruits, en fait. Donc là, tranquillement, on augmente les quantités. Mais au niveau de la fabrication... On n'a pas du tout changé, c'est ça, les recettes sont pareilles qu'elles étaient il y a presque 30 ans. On fait très attention. Puis quand on tombe sur les concours, c'est des concours internationaux, tu sais, c'est là qu'on aime envoyer notre crème. Puis c'est pas par nos sourires ou parce qu'on est fine qu'on a parce qu'ils nous voient pas le visage, là, on y va pas, on envoie ça par la poste. Puis les concours les plus prestigieux avec des produits de partout dans le monde, des grandes écoristeries puis des grandes distilleries. Donc, c'est certain qu'elle est bonne.
Donc, quand les gens vous voient le nom sur la liste, les autres qui sont en compétition contre vous sont comme « Oh non! »
Ah, je sais pas, mais
Cassis, c'est ça. Cassis, mon FP, ils sont contre nous. On va perdre.
C'est aveuglant, tu sais. Donc, les juges, dans ces concours-là, ils reçoivent, tu sais, puis c'est par catégorie de produits. Fait que là, ils vont goûter à l'aveugle, ils vont noter les qualités, c'est ça, de tu sais, la couleur, la viscosité, le parfum, tout ça. Donc, ils vont aller noter ça. Effectivement, on a eu la visite, puis nous, on a visité des liquoristes en France, ou des gens qui faisaient des alcools, qui connaissaient notre entreprise, puis qui nous ont dit, tu sais, eux se disaient, mettons, en France, ben voyons donc, tu sais, c'est qui ça, les liquoristes, femmes en plus,
c'est qui les filles de l'île d'Orléans, là?
Puis qui sont venus, tu sais, de grandes maisons de liquoristerie, là, qui sont venus en clients mystères pour voir que, là, probablement, tu sais, c'est ça, on leur fait pas vraiment peur parce que c'est des millions de bouteilles qu'ils font, là, puis tu sais, c'est très industriel quand même. Je veux rien enlever, tu sais, quand ils font de bons produits, puis c'est avec leur façon de faire, mais nous, on est comme ailleurs. Notre modèle d'affaires est assez particulier aussi, là, de cultiver, de vendre en direct, puis de garder ça, là, un côté familial, puis c'est ça, de femme à la tête de l'entreprise aussi, c'est encore rare.
Oui. Est-ce que c'est intimidant d'être une femme entrepreneur dans ce milieu-là où vous vous en rendez pas compte parce que pour vous, ça fait partie de la façon que vous travaillez?
Ouais, ben je te dirais que c'est pas si pire parce que justement le fait, on est quand même un peu en retrait à la campagne, puis on fait nos un peu comme notre père faisait, là, un petit peu moins fermé du reste du monde, mais tu sais, on n'est pas toujours on fait de la vente en direct, les gens, tu sais, comme toi, ta famille, vous venez, vous goûtez, tu sais, puis on s'ajuste aux gens qui viennent vers nous, en fait. T'sais, on n'est pas dans le démarchage pour essayer de voir qu'est-ce qui va plaire à une catégorie de clients, puis on n'est pas dans les... On fait pas du PR dans des cocktails pour essayer d'avoir des contrats. Donc, oui. On fait nos choses de notre côté, puis en gros, ça va bien. Plus jeune, il y avait peut-être un petit peu plus un enjeu, là, en étant, tu sais, à la tête de l'entreprise, jeune femme. Des fois, il s'est arrivé qu'il y a eu des situations un peu plus malaisantes, mais peut-être parfois en Europe. Tu sais, en France, là, j'étais plus jeune quand même, mais j'étais allée à un congrès de producteurs de cassis. Et effectivement, j'étais la seule femme propriétaire. J'étais jeune. Puis, tu sais, ça a été correct, mais disons, c'était plutôt... ça détonnait. Puis les gens... Ouais, elle était surpris, puis avait des questions, puis c'est ça.
Oui. Je sais qu'on a parlé un peu, mais je veux savoir, en terminant, qu'est-ce que vous voulez développer prochainement? Vous parlez des fruits séchés. Qu'est-ce qu'on peut voir prochainement?
Ben, en fait, comme je te le disais, on avait notre gamme d'alcool, vin apéritif, vin de type Porto, vin madérisé, la crème de cassis. Et là, on a rentré, donc on a acheté un alambic qui est vraiment magnifique, qui est encore de type artisanal. Donc, on va vraiment travailler nos fruits. Donc, on fait nos fermentations. Il n'y a aucun intrant. Il n'y a pas d'alcool de l'extérieur qui est utilisé comme base. Donc, ça, c'est assez particulier au Québec, là. Il y en a peu qui le font de cette façon-là. Donc, on va sortir une vodka artisanale, aromatique. Donc, c'est une vodka qu'on ne va pas aller purifier pour ne plus rien goûter, mais on va avoir de légers parfums de fruits avec une vodka aussi qui va être macérée au baies de cassis, donc une vodka rose. On va avoir un gin également en travaillant le plant de cassis qui est super intéressant, les fleurs de cassissier. Donc ça va être en début d'été aussi. Mais sinon, pour ce qui est du côté produits plus, justement, plus santé, puis un petit peu plus qu'on l'espère rentrer dans les habitudes de consommation des gens, bien, le cassis séché, comme à même titre que la canneberge, donc les mêmes utilisations dans les salades, dans les gâteaux, les galettes, avec le yogourt, puis ou juste en collation, comme ça, c'est vraiment, le cassis est un super fruit, tu sais, riche en antioxydants, en polyphénol, en fibres, tu sais, aussi pour tout le système immunitaire. Donc, c'est vraiment un fruit extrêmement bénéfique pour le corps humain. Donc, on a le cassis séché. On a également le cassis congelé. Donc, on ne ferait pas parce que ça prend une méthode de congélation particulière pour avoir des beaux fruits pour faire les smoothies, puis aussi bien, les sauces, les recettes. Et là, on va l'avoir là, prochainement. La récolte de l'année dernière a été toute congelée dans une usine de Bleuet au lac Saint-Jean. On est super excités, mais c'est comme une nouvelle façon de ben c'est ça, un nouveau produit dans un sens, puis une autre façon de le vendre aussi, de le proposer aux gens. Donc, on va avoir vraiment des sacs de cassis congelé pour que les gens l'utilisent au quotidien parce que ça vaut vraiment la peine pour la santé de le faire et pour le goût aussi. Les gens vont vraiment voir le fruit de plus près. Puis ensuite, c'est ça, développer une poudre de cassis, donc non sucrée, qui va pouvoir se mettre dans les smoothies aussi, dans les sauces, vraiment en allant chercher là, une concentration de polyphénol. C'est très importante. Puis, un petit peu ce qu'on a dans la mire, bien, c'est ça, quand on parle de soins de beauté et de tisane aussi. Donc, c'est ça, tout le côté santé, beauté, ça va être un terrain de jeu là, qu'on commence à rentrer, à aller vers celui-là.
Comment on va faire pour se les procurer, ces produits-là, si... Exemple, on ne va pas à l'île d'Orléans. Est-ce que c'est possible d'aller voir ailleurs?
Idéalement, ça va être l'île d'Orléans, certainement. Sinon, dans la région de Montréal, la Maison des vins va avoir nos alcools. Probablement, c'est le marché des saveurs qui a toute notre gamme là-bas, mais aussi différentes boutiques. Sur notre site Internet, on a la liste des détaillants qui offrent nos produits. Puis, c'est ça. Sur l'île, c'est vraiment la meilleure place. Sinon, les salons aussi sporadiques, on fait le salon des métiers d'art, on fait des salons dans la province, un peu partout. Mais éventuellement, on aimerait rentrer là, peut-être justement le cassis séché, le cassis congelé en épicerie. Peut-être on va essayer de séduire et de convaincre peut-être des détaillants qui sont déjà dans les produits santé de nous rentrer. Donc, j'espère pouvoir vous dire dans un an, vous pouvez me trouver facilement
à tel chez Rachel Berry ou chez IGA ou chez Métro, pourquoi pas.
Oui, c'est ça. Ou avec les fermes Lufa aussi qui font... propose des beaux produits. Donc, c'est dans la mire, là.
Écoute, en terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer?
Mais j'entends femme de fer, puis je vois le gant de velours. Je pense que c'est souvent inhérent aux femmes, là. On aime prendre soin des gens qu'on aime, puis on essaie de bien faire les choses. Des femmes fortes. Puis je pense qu'on a le privilège d'être au Québec. On peut être forte, puis je pense que ça vient aussi avec une responsabilité de penser ça, bien faire les choses, mais se tenir debout aussi.
Puisque Cassis Manaïfi, c'est une histoire de génération, est-ce que les enfants sont intéressés, vont continuer ou ça fait pas du tout partie des discussions?
Écoute, je pense que, en tout cas, moi, je trouve que pour moi et ma sœur, qui a été gagnant, pardon, je perds mes mots, c'est vraiment de pas avoir senti de pression ou d'obligation à prendre la relève. Donc, Anne n'a pas encore d'enfant. Moi, les deux miens vieillissent tranquillement, puis je ne mettrai jamais de pression, mais ma fille a commencé à travailler chez nous l'été passé, puis là, hier, une de mes collègues l'a contactée, tu sais, en direct, parce que c'est quand même important que ce ne soit pas juste une des filles d'une des bosses, mais vraiment, puis là, elle a confirmé qu'elle sera avec nous cet été avec enthousiasme, alors on ne le sait pas. Je pense que c'est une belle aventure, mais il y a tellement de beaux chemins dans la vie que ce soit ça ou autre chose, elle va être une femme de fer. Peut-être que ça va être mon fils.
Elle a quel âge?
Ma fille a 14 ans en ce moment.
Bon, alors on va lui laisser le temps de se développer, de se découvrir, voilà. Et on ne sait jamais.
On ne sait pas ce qu'elle va choisir, c'est ça.
La meilleure façon de vous contacter, c'est via le site web?
Oui, le site web, Messenger aussi, via Facebook. Facebook, on voit les nouvelles, puis on peut... on répond assez rapidement aussi.
Merci beaucoup, Catherine, d'avoir fait cette super entrevue. Écoute, ça me donne le goût, comme je viens de dire, d'y retourner immédiatement et de tester vos nouveaux produits. J'ai bien hâte de les découvrir, ça c'est certain.
Ah, bien écoute, merci Sophie de l'invitation. Ça m'a fait très plaisir de parler avec toi.
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.